Le journal, Violette Ferreira.
Bonjour. Plus de lignes ferroviaires directes entre Bienne et Genève. Dès 2025, les CFF prévoient un changement de train à Renan. L'annonce fait réagir une trentaine de communes, dont Bienne. La marque horlogère Maurice Lacroix dresse un bilan positif de son engagement avec l'entreprise célandaise Tide. La collaboration concerne la fabrication de montres en plastique recyclé. Le HC Bienne se prépare à accueillir les Finlandais du Tappara Tampere ce soir en Ligue des champions de hockey. Un duel avec des enjeux forts face aux tenants du titre. Enfin, côté ciel, les températures sont de saison. Il fera entre 10 et 15 cet après-midi dans le Jura bernois, avec une légère bise sur le Seeland et dans les vallons. En 2025, la ligne de train Bienne-Genève ne sera peut-être plus directe. Un changement de train est prévu à Renan selon le nouvel horaire établi par les CFF en mai dernier. Inacceptable pour de nombreuses villes desservies par la ligne du pied du Jura qui craignent des répercussions sur l'économie. 30 villes dont Bienne se sont alliées à la conférence des transports de la Suisse occidentale pour demander le maintien de cette ligne directe. L'avis de Eric Fer, maire de Bienne, engagé dans les revendications.
Je pense qu'on vit dans une époque où on demande aux gens d'utiliser les transports publics, de les privilégier pour les trajets quotidiens, donc pour aller au travail, pour se rendre à l'université, voire pour aller en vacances. Et puis finalement, Genève est la deuxième ville de Suisse. Genève a un aéroport, Genève a des relations ferroviaires avec la France voisine, ou même le sud de la France. Et puis, si vous voyagez avec une famille, deux enfants et les bagages, et vous devez changer de train à Renan et rejoindre un train qui est déjà très, très bien occupé, qui vient depuis Berne, Fribourg, Lausanne, ben, c'est pas le confort que nous souhaitons.
L'Alliance des villes demande le maintien des liaisons directes entre Bienne et Genève, aux heures de pointe en tout cas. Deuxième demande, un changement de quai à Renan pendant la période des travaux où les interruptions ne peuvent pas être empêchées. Les villes attendent maintenant la réponse des CFF. Maurice Lacroix poursuit son engagement en faveur des mers et des océans avec Tide. La marque horlogère basée aux Franches-Montagnes s'est lancée en 2022 dans la fabrication de montres en plastique recyclé. Un plastique qui est tout droit repêché en mer le long des côtes en Thaïlande, là où l'entreprise célandaise Tide est active. Le bilan après une année et demie est positif, selon un communiqué publié hier, Loïc Georgi.
Après seulement la moitié du mandat entre Maurice Lacroix et Tide, ce sont plus de 7 millions de bouteilles qui ont déjà été récupérées. Il n'en manque plus que 3 pour atteindre l'objectif initial fixé sur 3 ans. Cette avancée est possible notamment grâce aux investissements de la marque Ténion qui ont permis l'achat de bateaux à longue queue et la construction d'entrepôts d'équipement. Or, Maurice Lacroix annonce cette semaine que l'entreprise entend poursuivre son engagement. Des entrepôts supplémentaires vont voir le jour pour stocker le plastique et le trier. Un quai à Ranong va également voir le jour afin de permettre aux bateaux de déposer les déchets plus efficacement et en sécurité. L'hébergement du personnel sera aussi rénové aux frais de la société horlogère. Un point de collecte sortira également de terre en Thaïlande.
Au total, 80 personnes sont impliquées dans la collecte de bouteilles en plastique, indique Maurice Lacroix, dont 14 sur place. La Chaux-de-Fonds accueille le procès de 7 jeunes pour enlèvement. Ils sont accusés d'avoir agressé une bande rivale biennoise à la gare de Neuchâtel en mars 2021. Les prévenus avaient placé de force une victime dans un coffre de voiture pour l'emmener dans une cave à la Chaux-de-Fonds. Les tensions entre les deux gangs se sont poursuivies 6 mois plus tard à Lausanne et ont coûté la vie à un jeune Loclois. Cela fait l'objet d'un autre procès. Les élections fédérales de dimanche prochain sont en fait l'addition d'élections cantonales. Les 26 cantons sont les circonscriptions, avec des enjeux et des thématiques diverses d'un canton à l'autre. 4 regards cette semaine sur 4 cantons hors de Suisse romande, à commencer par le plus grand Zurich. 1,5 million d'habitants et 36 élus sur les 200 du Conseil national. C'est surtout là que les principaux mouvements seront marqués. Les explications de notre correspondant parlementaire Serge Jubin.
À Zurich comme en Suisse, et malgré son caractère urbain, c'est l'UDC qui domine. Il n'y a qu'en ville de Zurich et de Winterthur qu'elle ne dicte pas sa loi. En 2019, l'UDC zurichoise avait subi un net revers, passant de 12 à 10 conseillers nationaux. Mais le parti de Christoph Blocher a réalisé un fort rebond lors des élections cantonales du début d'année, qui lui permet d'envisager de récupérer ses deux fauteuils. Ce d'autant que Zurich aura un siège supplémentaire à la Chambre du Peuple en raison de son accroissement démographique, siège pris à Balville. Comme ailleurs en Suisse, les Verts, qui étaient passés de 2 à 5 élus en 2019, s'essoufflent et devraient perdre des plumes. Pour les autres partis, ce pourrait être plus ou moins le statu quo. Un siège pourrait aller à la figure de proue des anti-mesures Covid, masse folle, Nicolas Raimondi. Pour le Conseil des États, le sortant socialiste Daniel Josic devrait être élu aisément, peut-être déjà au premier tour. La lutte sera chaude pour le second fauteuil, délaissé par le PLR Roedi Nozer, qui s'en va. Entre l'UDC Gregor Rutz, la libérale radicale Regine Sauter et la vert libérale Tiana Moser, qui pourraient profiter lors d'un second tour d'un report des voix de la gauche.
Les propos de notre correspondant parlementaire Serge Jubin. Les loyers sont toujours plus chers en Suisse et ils ont poursuivi leur hausse en septembre. Augmentation de 0,5% par rapport au mois précédent selon l'indice publié aujourd'hui par la plateforme immobilière homegate.ch et la banque cantonale de Zurich. En l'espace d'un an, les loyers ont bondi de 3,7% en moyenne. L'auteur de l'attentat de Bruxelles est bien l'homme abattu ce matin par la police belge. L'information confirmée ce matin par le procureur fédéral de Belgique et le Centre national de crise. Touché au thorax lors de son interpellation, ce ressortissant tunisien de 45 ans a succombé à ses blessures au service des soins intensifs à l'hôpital. Il avait tué hier soir deux ressortissants suédois en marge d'un match de football entre la Belgique et la Suède. La chasse à l'homme menée toute la nuit a abouti dans la matinée. Les précisions de notre correspondant en Belgique, Pierre Benazé.
Grâce à un témoignage, Abdessalem Lassoued a été interpellé peu avant 8 heures dans un café à Skarbeek, une commune du nord de Bruxelles, à environ 1 km de son domicile. La police fédérale belge l'a neutralisé avec au moins un tir au thorax. Dans un parc tout proche, la police a retrouvé l'arme automatique employée lundi soir pour abattre les deux victimes suédoises. Ce Tunisien de 45 ans en séjour illégal était connu de la police belge pour des faits de trafic d'êtres humains et d'atteinte à la sûreté de l'État. Il a déposé une demande d'asile en Belgique en novembre 2019. Dans une conférence de presse du gouvernement fédéral cette nuit, le ministre de la Justice ajoute qu'il avait été signalé comme radicalisé et désireux de se rendre dans une zone de combat pour le djihad, un signalement provenant, je cite, d'un service de police étranger. Ce signalement n'a pas été confirmé par la sûreté de l'État, les services belges de renseignement.
Un attentat qui a replongé la Belgique dans de vieux souvenirs, déjà touchés à plusieurs reprises par des attaques de l'État islamique. Le match de football Belgique-Suède a été arrêté hier soir à la mi-temps et le public n'a pas pu être évacué qu'avant minuit, le temps de sécuriser la zone. Pierre Benazé revient sur l'ambiance particulière qui régnait dans la ville.
Les rues de Bruxelles avaient un aspect étrange hier soir. Malgré la rapidité de la diffusion de l'information sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes étaient encore assises jusqu'à des heures tardives dans les terrasses et cafés du centre-ville. La situation ce matin dans la capitale belge n'est pas très différente, même si certains établissements scolaires sont fermés, d'abord parmi les écoles internationales et européennes, et ensuite parmi les écoles flamandes de Bruxelles, mais pas les écoles francophones. Il y a une forme de résilience des Bruxellois qui avaient déjà subi un confinement peu après les attentats à Paris de novembre 2015. Le soulagement suite à l'arrestation d'Abdessalam Lassoued était palpable, mais les Bruxellois avaient entamé ce matin leur journée de travail comme si de rien n'était. Les mesures de sécurité renforcées restent en place, avec une surveillance accrue des transports et des bâtiments publics.
L'une des deux victimes de l'attentat habitait en Suisse. C'est ce qu'a indiqué ce matin le département fédéral des affaires étrangères. Pour des questions de protection de la personnalité, les autorités ne donnent pas d'autres informations concernant cette personne.
RGB, il est 12h24, Violette Ferreira. On va tout de suite partir sur les glaces internationales.
Sport. Stop ou encore, c'est la question qu'on se pose à propos de hockey. Le HC Bienne est face à un virage dans son parcours européen. Il dispute ce soir son dernier match de la phase préliminaire de la Ligue des Champions. Les hockeyeurs zélandais reçoivent les Finlandais du Tapara Tampere à 19h45 à la Tissot Arena. Et ces duels face aux tenants du titre ressemblent fortement à un 16e de finale, Mathieu Schaffner.
Le HCBN tient son avenir continental entre ses mains. Il occupe le 16e et dernier rang qualificatif pour les 8e de finale avant ce match. Une place devant son adversaire du soir. Biennois et Finlandais ont le même nombre de points. Un succès suffirait donc au bonheur zélandais, même s'il est acquis au-delà du temps réglementaire. Bonne nouvelle ou bon présage, c'est selon. Le HCB a remporté ses deux matchs à domicile cette saison en Ligue des Champions. Mais ça ne reste qu'une statistique. Une défaite ce soir ne serait pas forcément synonyme de fin de parcours pour la troupe de Petri Matikainen. Elle se ferait certes dépasser par Tappara Tampere, mais le HCB pourrait dénicher son bonheur dans une défaite de Trinec demain soir. Il faudrait alors que les Tchèques s'inclinent face à Aalborg sur un écart supérieur à celui séparant Bienne de Tampere. Bref, mieux vaut faire le travail dès aujourd'hui.
Rendez-vous demain dans la matinale pour des réactions biennoises à l'issue de ce duel de Ligue des Champions. C'est la fin de cette édition. Bon appétit.